Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Avenue Strategies. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous M. Modeste Boukadia. Il est le dirigeant du parti politique de la République du Congo qui s'appelle le Cercle des démocrates et des républicains du Congo, ou bien le CDRC. Merci d'être parmi nous. Donc, voici notre première question pour vous. Votre parcours personnel est tellement passionnant et il vous a fallu beaucoup de courage pour le transmettre. Est-ce que vous pouvez expliquer les sentiments que vous avez éprouvés en 1997 et en 2009 quand vous vous êtes présenté comme candidat pour président pour établir une République de Congo unie et quand le dirigeant tyrannique là-bas a rendu impossible toute débouchée pour des élections libres et justes?
Oui, effectivement, j'étais candidat à l'élection présidentielle de 1997. Après une période noire, c'était les deuxièmes élections libres. Mais M. Sassou, c'est-à-dire le tyran et le dictateur, avait estimé que le président élu Pascal Lissouba n'était pas en mesure d'organiser les élections libres et démocratiques. Il a fait donc son coup d'État. Et donc, du coup, la démocratie a été arrêtée. À la suite de cela, il a imposé un régime autoritaire en modifiant la constitution qui avait été approuvée par le peuple à 92% pour imposer une constitution présidentielle à sa mesure.
Quand vous êtes revenu à nouveau dans le Congo en début 2016, vous avez rencontré toutes les forces de la dictature qui est en pouvoir à l'heure actuelle. On vous a mis en prison, vous avez reçu une peine de 30 années de travail forcé. Comment est-ce que vous avez su supporter cet environnement pendant 575 jours, pendant lesquels vous avez été souvent hospitalisé suite à des maltraitances brutales?
Écoutez, c'est très difficile, puisque j'ai été condamné pour une raison simple. Je demandais la mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour mettre en place la cohésion et la paix de toute la population entre le nord et le sud, puisqu'il y a un antagonisme. C'est à la suite de cette demande d'un gouvernement d'union nationale, parce que le régime dictatorial utilise les 92% du commandement civil et militaire sont aux mains de la famille de M. Sassou. À la suite de cela, après ma condamnation, je suis allé au Congo pour avoir un procès, puisque j'étais condamné par contumace. Et quand je suis arrivé le 10 janvier 2016, avec mon épouse à Brazzaville, au sortir de l'avion Air France, il y a 2000 militaires qui m'attendaient, qui m'ont arrêté et qui m'ont envoyé à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, où 1000 militaires m'attendaient également. C'est au cours de cette incarcération arbitraire que j'ai subi de la violence, de la torture qui m'a rendu malade avec des problèmes cardiaques et des problèmes lombaires, parce que je porte encore la ceinture. Pendant mon incarcération, ma privation de liberté citoyenne, cela m'a permis de voir que rien n'est plus important que la liberté. Et ma période en prison m'a permis de voir autrement le monde. Jusqu'à présent, la démocratie, c'était quelque chose d'abstrait. La liberté, c'était quelque chose d'abstrait. Mais en étant en prison, j'ai vu la réalité de ce qu'est la démocratie, de ce qu'est la bonne gouvernance, de ce qu'est la liberté. Et lorsque j'ai été souvent hospitalisé, le directeur de la maison d'arrêt est venu me retirer de force mes soins, que j'avais, par exemple les perfusions, il les arrachait. Et en même temps, il y a eu une tentative d'assassinat. Mais j'avais la détermination que je ne devais pas m'abattre, parce que je me battais en même temps pour mon pays. C'est la raison pour laquelle je suis déterminé à ce que ceux qui sont encore en prison, parce qu'il y a encore de prisonniers politiques de toutes les tendances, en dehors des membres du CDRC, dont les Nations Unies, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies avait émis un avis demandant au régime dictatorial du Congo de les libérer. Jusqu'à présent, ils sont encore en prison, ils sont malades. Mais il y a les autres prisonniers politiques qui se sont présentés aux élections présidentielles de 2016, qui sont encore en prison. Ceux-là aussi souffrent. Et c'est mon combat, ce combat-là qui m'a amené ici aux États-Unis d'Amérique pour venir demander aux États-Unis d'Amérique de nous aider pour la libération de ces prisonniers politiques et surtout de permettre que le Congo retrouve la voie de la bonne gouvernance. Monsieur Sassou, le dictateur, est là parce qu'il a corrompu tout le monde. Parce que les gens sont pauvres. Or, s'il y a de l'emploi, de l'investissement, les gens seront beaucoup plus forts. C'est pour ça que, lors de mes différentes réceptions au Congrès, comme au Sénat, et dans les différentes administrations américaines, j'ai exposé la difficulté que subit le peuple du Congo et mon engagement ferme d'aller vers la bonne gouvernance avec l'aide des États-Unis d'Amérique et pour que les entreprises américaines investissent de nouveau au Congo. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'entreprise américaine. Et pour y arriver, j'ai beaucoup insisté auprès des sénateurs et auprès de congressmen que la manière la plus facile pour éviter une guerre, c'est que les États-Unis soient le leadership de nouveau en Afrique en proposant, en exigeant une conférence internationale et une audition sur le Congo au Congrès afin de voir les raisons pour lesquelles il y a cette dictature et que nous en sortions par des élections anticipées pour réinitialiser le Congo vers la bonne gouvernance, vers la paix, vers la stabilité, vers la cohésion. Et ça, c'est l'expérience de la prison qui me l'a amené. Je n'ai pas de haine, je n'ai pas de chasse aux sorcières à faire, mais ce que je souhaite, c'est que le peuple congolais soit comme le peuple américain, le premier peuple, le peuple fort, le peuple digne, le peuple debout. C'est ce que je veux pour le Congo.
Ensuite, est-ce que vous pouvez nous décrire les efforts effectués par votre femme Nadine et M. le Président Trump des États-Unis et le Président Macron de la France qui ont assuré votre libération du prison l'année dernière?
Oui, bien sûr. Vous savez, je ne remercierai jamais assez mon épouse Nadine Najel Boukadia parce qu'elle a sensibilisé les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Elle a également sensibilisé les pays démocratiques, la France, l'Union européenne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique. Elle a sensibilisé Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, la FDH, une fédération internationale de droits de l'homme. Et il y a également les droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme du Congo. Et sans elle, évidemment, je crois que l'appel, je serais encore en prison. Mais elle a su, par l'amour qu'elle me porte et que je lui porte, sensibiliser le cœur, notamment des États-Unis d'Amérique et de la France et des autres pays européens. C'est ainsi que, pendant la campagne de président Trump, lui-même, je crois, avait dit « Monsieur Boukadia, c'est un bon gars que nous devons aider ». Je cite, c'est ce qui m'a été dit. Et quand j'ai entendu ça, que le président Trump avait dit cela, mon espoir de voir le jour s'était éclairci et j'étais heureux. Et quand j'ai entendu également qu'en France, il y avait un nouveau président qui était élu, un jeune, et je m'étais dit qu'effectivement, M. Trump et M. Macron devraient s'entendre pour libérer du joug de la dictature tous les pays du monde, tous les pays de l'Afrique qui sont sous le joug de ce qu'on appelle les apparatchiks du système de l'Union soviétique, parce que M. Sassou fait partie de ceux de l'Union soviétique. Il fonctionne comme s'il était encore dans le monde de l'Union soviétique. Ce n'est pas un homme ouvert, c'est un criminel. Il agit de la même façon que que le président syrien, puisqu'il bombarde une partie de la population du sud, du pôle, avec de l'armement lourd. Et dernièrement, il a voulu faire usage du gaz sarin, et ce sont les présidents de la RDC, le président de l'Angola, le président du Gabon qui se sont opposés. Ça veut dire qu'en fait, c'est un criminel qui est là, et je regrette que certaines puissances européennes soient encore amies avec lui. Voilà, et ceci, c'est pour ça que je ne cesserai de féliciter mon épouse Nadine et de remercier grandement et fermement le président Trump et le président Macron.
Merci. Puis, pourquoi êtes-vous aux États-Unis cette semaine?
Je suis aux États-Unis cette semaine parce que c'est après avoir parcouru certains pays européens et après avoir écrit au Premier ministre français, M. Édouard Philippe, et au président Macron sur la guerre qui se passe, sur la crise qui se perpétue au niveau du Congo, au niveau de la partie sud du Congo. Malgré les accords, semble-t-il, qu'il a signés le 5 mars dernier, il a encore envoyé des militaires, des hélicoptères de combat aller bombarder les populations civiles. Alors je me suis dit, il faut que j'aille dans la plus grande puissance du monde où la démocratie, la bonne gouvernance, ce ne sont pas des vains mots, mais il y a un contenu pour alerter l'administration Trump qu'il y a nécessité que les États-Unis qui se battent, qui vont aider les pays pauvres, nous écoutent et exercent une pression tant financière qu'économique par le biais de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la Fed, pour faire un embargo sur les avoirs, une saisie sur les avoirs de M. Sassou et de sa famille, pour que M. Sassou lâche la pression sur les populations et en même temps pour initialiser une élection présidentielle anticipée à l'issue de ce que j'ai appelé moi la conférence internationale, qui est la solution diplomatique la plus positive, comme l'a qualifié l'Union européenne, en disant que la conférence internationale sur le Congo serait le meilleur moyen pour introduire de nouveau la démocratie au Congo. C'est cette raison-là qui m'a poussé de venir aux États-Unis d'Amérique, où j'ai été reçu par de nombreux sénateurs et de nombreux congressmen qui m'ont écouté et qui ont approuvé cette solution pour qu'il n'y ait pas de désastre humanitaire. Et c'est pour ça que j'insiste et que je redemande, je sais que les États-Unis sont sensibles à cela, que nous devons arriver à la conférence internationale et une audition du Congo par le Congrès, afin de voir pourquoi le Congo, qui compte à peine 5 millions d'habitants et qui est riche, est si endetté et pourquoi les populations du Congo vivent avec moins d'un dollar par jour, alors que le Congo est riche. C'est la raison pour laquelle je suis venu cette semaine rencontrer les autorités américaines qui ont eu une très bonne écoute à mon endroit.
Et justement, la prochaine question, c'était comment a été votre accueil lors de vos réunions à Capitol Hill avec les autres parties qui s'intéressent à votre vision pour le Congo-Brazzaville?
Écoutez, je suis très heureux parce qu'ils ont eu une écoute, parce qu'ils ont réussi à comprendre. Déjà, quand je suis arrivé, presque toutes les administrations et tous les sénateurs étaient au courant que j'étais en prison. Mais ils ne comprenaient pas la raison pour laquelle j'étais en prison, puisque je n'avais jamais commis d'actes illicites. Je n'avais jamais volé, je n'avais jamais tué. Et ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais en prison et condamné à 30 ans de travaux forcés, et puis purgé 575 jours de prison et torturé. Donc je leur ai expliqué que M. Sassou utilisait cette manière pour casser les gens, pour permettre à ce qu'il reste là, pour corrompre, parce qu'il ne veut pas ouvrir le marché congolais à des entreprises tierces en dehors des entreprises chinoises avec laquelle la Chine, il participe à la corruption de non seulement du Congo, mais de l'Afrique. Et chaque fois que un homme politique a une vision autre que celle qui va dans le sens de la politique, M. Sassou Nguesso le jette en prison pour décourager ceux qui veulent avoir l'expertise et l'expérience des États-Unis d'Amérique. C'est mon cas. C'est pour ça que je suis venu, je les ai sensibilisés. D'ailleurs, j'étais très heureux lorsque, par exemple, c'est un des exemples, le congressman M. David Price a dit: ah, vous savez, on m'a tellement fait de promesses en Afrique, mais les États-Unis d'Amérique n'ont jamais eu véritablement de partenaire en Afrique. Et je lui ai répondu: vous avez votre partenaire. Et il était heureux. On s'est salué avec une grande joie. Et surtout, quand j'étais aussi dans d'autres départements qui s'occupent des droits de l'homme, ils ont été très sensibles puisqu'ils m'ont demandé de leur remettre la liste de tous les prisonniers politiques pour que les États-Unis exercent leur pression sur la libération, sur M. Sassou, pour qu'il y ait la libération de ces prisonniers politiques de Pignon. Et je redis, ces gens-là n'ont jamais tué, n'ont jamais volé. Ils ont seulement demandé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Ils ont été condamnés parce qu'ils portaient des pancartes où c'était écrit « démission du gouvernement égale union nationale ». Et c'est la première fois, personnellement, j'ai toujours œuvré pour l'union nationale. Mais curieusement, j'étais condamné pour ça. Je n'ai pas été condamné parce que je demandais que les richesses nationales soient gérées de manière, comme aux États-Unis, chaque État soit indépendant, il y a une administration centrale. Moi, je proposais que chaque région soit autonome financièrement et administrativement. Mais ce n'est pas pour ça que j'étais condamné. Mais j'étais condamné parce que j'avais demandé l'union nationale pour que le Congo n'aille pas dans une dérive politique et n'aille pas dans des endettements sans fond. Et l'avantage et la raison pour laquelle la conférence internationale est importante et l'audition par le Congrès est importante, parce que nous saurons pourquoi un pays comme le Congo, qui a 5 millions d'habitants, a un endettement supérieur à 236% du PIB. Il devait y avoir une mission prochaine du FMI, la mission a été annulée pour la simple raison, mais le dictateur Sassou, le criminel Sassou, comme on l'avait appelé ici, au temps du président Bill Clinton, le chef de guerre, il est resté chef de guerre, puisqu'il signe des accords, mais il continue de bombarder la population. Il fait exactement comme la Syrie. C'est pour ça que la conférence internationale et l'audition au Congrès serait une bonne chose, parce que nous verrons où va l'argent et pourquoi la Chine a la même mise sur le Congo. Aujourd'hui, ce n'est pas le Congo ce ne sont pas les Congolais qui possèdent leur pays. C'est la Chine, par les biais de faux contrats, qui est en train de gérer le pétrole, qui est en train de raser les forêts pour les mines. Ce que moi je souhaite, avec la conférence internationale, quand il va y avoir des élections présidentielles anticipées, d'ouvrir le territoire congolais à l'expertise et à l'expérience des entreprises américaines qui ne pratiquent pas la corruption, alors que les entreprises chinoises pratiquent la corruption. C'est cette expertise-là que je suis venu chercher.
Ok. Très bien. Et la toute dernière question, c'est la suivante. Quelles sont vos prochaines démarches pour aider la République du Congo et son peuple?
Les prochaines démarches que je vais faire, c'est d'abord, je vais rencontrer demain l'ensemble de la diaspora nord-américaine, enfin, du Canada jusqu'ici, pour leur faire le compte rendu de ce que j'ai fait. Une diaspora immense, énorme, qui est ici. Ils sont partis parce qu'il y a de l'insécurité au Congo. Or, avec la conférence internationale et l'audition par le Congrès, nous allons stopper cette immigration illégale qui se fait, et en même temps les cadres congolais qui sont ici pourront repartir au pays pour construire leur pays. Et ensuite, en France, je vais également rassembler l'ensemble de l'opposition, des opinions différentes, pour leur faire le compte rendu. Et je pense que d'ici là, ce que j'ai demandé de manière officielle au département d'État, c'est-à-dire la conférence internationale et l'audition au Congrès, va aboutir de telle sorte que le Congo aille de nouveau sur la voie de la démocratie. Et surtout, si nous devons mettre hors d'état de nuire diplomatique le dictateur Sassou, c'est que les États-Unis, les grands contributeurs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, exercent une pression et agissent en mettant un embargo sur les produits financiers, parce que ce sont ces produits pétroliers qui permettent à la Chine de donner de l'argent à Sassou. Et c'est cet argent-là qui permet à Sassou de corrompre la plupart des hommes politiques qui se disent des opposants, qui sont ses amis. Il les appelle opposants pour que la communauté internationale dise « Ah non, il y a des opposants au Congo. » Les vrais opposants sont en prison. Ceux qui se baladent, ce ne sont pas des opposants. Voilà la raison pour laquelle je sensibilise, que je veux aller dans les autres pays, en Europe, et certainement en Afrique, pour apporter cette bonne nouvelle.
Ok, merci de nous avoir éclairci la situation.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Et encore, je voudrais dire grand merci au peuple américain et à l'administration Trump. Merci beaucoup.